Chapitre 88. Débarrassée des indentations qu'il lui avait infligées, la lame de Manon était de nouveau tranchante comme un rasoir. « Comme neuve !» dit l'armurier nommé Mandon Smith. « Quand tu auras tué 100 ennemis de plus, reviens me voir et je recommencerai. » Très content de sa nouvelle épée, Bannon était également ravi que l'armurier se soit souvenu de lui avoir vendu Solide dans un passé qui paraissait très lointain. « Solide fut ma première arme, une lame fiable et fidèle. Je regrette de l'avoir perdue. » Pour oublier sa tristesse, Bannon fit tourner entre ses mains le superbe présent de Nathan. « Mais celle-là n'est pas mal non plus. »
« J'ai toujours un tronc d'entraînement si tu veux l'essayer. »
Bannon se souvint de cet incident. Pour oublier le chagrin et les drames qu'il tentait de fuir, il avait taillé en pièces le fameux tronc. Aujourd'hui, il se contrôlait mieux. Sans doute parce qu'il était un meilleur escrimeur, mais surtout parce que ses blessures secrètes avaient guéri. Cela dit, son optimisme n'était pas seulement une façade, mais une part authentique de sa personnalité. Pour la bataille, toutes les épées de Mandon avaient été réquisitionnées. Dans la main des défenseurs morts, on avait retrouvé d'innombrables lames abîmées. Pour les remettre en état, l'armurier s'échinerait pendant des années. Souriant, Bannon rengaina son épée. « Elle est parfaite. Pour le savoir, inutile de torturer un pauvre tronc. D'ailleurs, j'aime mieux des adversaires qui ripostent. Mais pour un moment, on ne devrait pas en trouver beaucoup. » Il eut un sourire énigmatique. « L'épée fend les os.
Si ça te manque, mon gars, je veux bien t'affronter. »
Dans sa tenue minimaliste, Lila venait d'entrer dans la boutique. Malgré leur relation intime et intense, elle continuait à impressionner Bannon. Pour Lila, l'amour était une bataille qu'elle escomptait gagner. Mais il aimait jouer à ce jeu-là avec elle. De plus, il se félicitait de l'avoir adoucie autant qu'une moracite pouvait l'être.
Je n'ai aucune envie de ferrailler aujourd'hui. En revanche, j'apprécierais ta compagnie.
Parfait. Parce que je suis venu te chercher. Le capitaine du bateau qui pue veut te voir. Il prétend savoir ce que tu désires.
Le capitaine Jared? Que croit-il donc celui-là?
Tu n'as pas fait mystère de ton envie de quitter Tanimura, pas vrai?
Pour un peu, Bannon aurait cru que sa compagne s'inquiétait.
Si c'est ainsi, allons écouter ce que ce type veut me dire.
Des marins chargeaient des caisses à bord du chasseur. Sur le pont, Jared donnait de la voix pour montrer qui était le chef, mais ces hommes n'en faisaient qu'à leur tête. Avec efficacité et compétence, il convenait de le préciser. Dès qu'il vit les deux jeunes gens, le capitaine les salua de la main.
« Je m'attendais à te voir accourir, Bannon Farmer, pas flâner ainsi. C'est ta chance, mon garçon. Si tu veux venir, mon chasseur appareillera ce soir pour profiter de la marée. Direction Shiria. »
« Mon île natale ?»
Le jeune escrimeur hésita.
« Je ne suis pas encore décidé. »
Bannon consulta Lila du regard.
« Menteur, ton siège est fait depuis longtemps. Cela dit, je me demande ce qui te pousse à retourner sur une île dont tu dis tant de mal. »
Soudain rouge comme une pivoine, Bannon baissa les yeux.
« Je dis du mal de mon salaud de père, mais il est mort. Ma mère, je n'ai pas pu la sauver alors qu'elle seule me retenait là-bas. Quant à Yann, on me l'a arraché. À l'époque, je n'avais aucune raison de rester. » Aujourd'hui, devenu plus courageux, je ne vois pas en quoi je devrais craindre un retour au bercail.
Après tant d'épreuves et de deuils, sans même parler de son calvaire entre les mains des Norukai puis de l'attaque des Selka, Bannon se sentait épuisé et il aspirait à un peu de paix et de repos.
J'ignore ce que je trouverai chez moi. Y retourner est peut-être une énorme erreur.
Les bras croisés, Jared intervint soudain.
J'ai entendu des choses inquiétantes. « Assez pour me faire changer de destination, si tu veux vraiment aller ailleurs. »«
Je n'ai jamais dit que... »« Tu peux répéter ton avant-dernière phrase ?»« Le malheur a frappé mon île ?»
Jared eut un rictus amer.
« Des galères rôdent autour, mon garçon. Nous avons neutralisé la flotte de Calvert, c'est certain, mais il reste encore quelques bateaux. Puisque nous contrôlons la côte, ils s'en prendront à des cibles plus modestes. Ton île, par exemple. »
Alors il faut y aller et protéger les gens. Ils ne savent pas se battre. Lila, toi et moi, on pourrait les former.
La moracite ne se détendit pas vraiment.
J'ai cru que tu voulais te débarrasser de moi.
Comme tu parlais sans arrêt de partir. »
Bannon n'en crut pas ses oreilles.
« Je n'ai jamais envisagé de... » « Douce mère la mère, je n'étais pas vraiment sérieux. Rentrer chez moi, c'était une sorte de rêve éveillé. Mais là, je pense à ces pauvres insulaires. Même si j'ai de mauvais souvenirs de Chiria, la plupart de ses habitants ne méritent pas de mourir. »
« Jusque-là, tu ignorais qu'ils étaient menacés, » marmonna Lila.
« Ça n'a pas pesé sur ta décision ?» Jared sourit, révélant ses dents du bonheur.
« Elle t'a eu, mon garçon, reconnais-le !»
Dès que deux marins chargés chacun d'un tonneau de bière furent passés, le capitaine dévala la passerelle et sauta sur le quai.
« Minute !»
fit Bannon à sa compagne.
« Si j'allais quelque part, ça te peinerait ? On dirait que tu es blessé. »
Lila se raidit.
« Tu m'as vu combattre, mon gars. Pour blesser une Morassite, il en faut plus que ça. Mais pour tuer des Norokai, tu n'aimerais pas m'avoir à tes côtés ? Même si je ne comprends pas pourquoi tu veux protéger des minables au lieu de chasser les esclavagistes partout où ils sont, je suis prête à t'aider.
Ces minables, comme tu dis, sont exactement comme j'étais à l'époque. Ce qui m'est arrivé, je ne le méritais pas. Même chose pour Yann. Si je peux, je veux sauver ces gens. Et j'ai toujours supposé que tu m'accompagnerais.
Sans jamais me le demander.
Lila, veux-tu m'accompagner sur mon île? Et partout où je pourrais aller?
La Morassite hocha la tête.
Puisque c'est si important pour toi, j'accepte de venir.
Lila tira sur son pagne de cuir noir.
Tu te débrouilles toujours pour avoir besoin de protection. Je n'oserais pas te laisser partir seule.
Même si elle sembla rester de glace, dire adieu à Bannon fut plus dur que Nietzsche l'aurait cru. Sur la grande place qui dominait le port, le jeune escrimeur lui donna l'accolade, plus longtemps qu'il était convenable, mais elle ne le repoussa pas et lui rendit même son étreinte.
« Tu me manqueras, Nietzsche. J'ai tellement appris auprès de toi, glané tant de force et de sagesse. »
Finalement, Bannon se tourna vers Nathan. Fier de son protégé, le vieux sorcier eut du mal à retenir ses larmes.
« Fiston, tu es un sacré combattant et un très bon compagnon. Au début, tu étais un jeune sot, mais te voilà un homme plus fort, plus courageux et plus malin que j'aurais pu l'espérer. »
J'avoue être impressionné,
fit Nietzsche.
Quand je t'ai sauvé de ta propre stupidité dans une ruelle proche d'ici, je n'aurais pas parié un sou troué sur toi. Te jugeant comme un nid à problème, j'ai juré de ne plus jamais te venir en aide.
Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin qu'on me sauve, pas vrai?
Bien sûr que si.
Raya Nietzsche.
Mais pas plus que chacun d'entre nous. Tu t'es battu à nos côtés et nous avons lutté près de toi. À présent, rentre au pays, Bannon Farmer. Tu le mérites.
Nathan riva les yeux sur Lila.
Tu jures de le protéger? Parole de Morassite.
Jusqu'à mon dernier souffle. Il était inutile de le demander.
Vexé, Bannon tapota le pommeau de son épée.
« Sorcier, n'as-tu pas dit que je suis capable de prendre soin de moi ?»
La magicienne et le vieux sorcier échangèrent un regard amusé.
« J'ai promis sur mon honneur, » fit Lila.
« Pour une Morassite, ça veut tout dire. » Alors que le soleil se couchait, les deux jeunes gens s'éloignèrent en direction des quais. Nietzsche se tourna pour sonder les rues de Tanimura. Un peu avant le bois de Hagen, l'île Collet était encore noire de suie, mais les flammes avaient fini par s'éteindre, le vent du large chassant la puanteur de la mort. Seul avec la magicienne, Nathan posa la question qui lui brûlait les lèvres.
« Qu'adviendra-t-il de nous? Vas-tu aussi te reposer sur l'idée que le monde est enfin hors de danger grâce à nous? »
« Le monde n'est jamais hors de danger. Et notre promesse à Richard tient toujours. » À Dara, il affronte une crise terrible, sinon il n'aurait pas refusé de nous envoyer des renforts. Le mieux serait de rentrer au palais du peuple.
Nathan eut un fin sourire.
J'étais sûr que ce garçon ne pourrait pas survivre sans nous. Tu crois que nous devons voler à son secours?
Je pense qu'il a besoin de nous, oui.
Nietzsche rêvait de combattre de nouveau près de Richard. voir son beau visage, sentir sa présence. Consciente qu'il appartenait corps et âme à Callan, elle s'était résolue à quitter Dara, pour moins souffrir tout en continuant de servir l'élu de son cœur. Indécise, elle balaya la place du regard et se souvint de tout ce qui s'était passé à Tanimura. Même si tout le monde était épuisé, ils avaient gagné, et il n'y avait rien de mieux que la victoire pour redonner du cœur au ventre à un peuple. Le messager qui entra sur la place au galop, venant d'Alterrang, si on en jugeait par sa tenue, ne semblait pas particulièrement réjoui. L'air dur, le regard perçant, il affichait un rictus hautain. Après avoir tiré sur ses rênes, il beugla pour attirer l'attention de la foule.
« Je viens délivrer un message de la capitale de notre nouvel empire. »«
Un nouvel empire ?» s'alarma aussitôt Nietzsche. Très droit sur sa monture, l'homme balaya du regard ce qu'il tenait pour une ville populace, puis ses yeux s'attardèrent sur Nietzsche.
« Ton ignorance, femme, ne ternit pas la gloire de l'empereur Argus. Attaqué par une armée venue des profondeurs du temps, Alterrang vous annonce que nos ennemis ont été écrasés. »
Nathan fit deux pas en avant.
« C'était l'armée du général Outros ?»«
Une force de 10 000 hommes, » répondit le messager. « Nous leur avons proposé de jurer fidélité au nouvel ordre impérial, mais ils ont refusé. »
Le sale type eut un sourire matois.
« Nous les aurions massacrés, bien entendu. Mais le gardien s'en est chargé à notre place. Le voile s'est ouvert. Et ils ont tous été aspirés dans le royaume des morts. »
Nietzsche avança aussi.
« L'ordre impérial n'existe plus et l'empereur Jagang est mort. »
Elle ne jugea pas utile de préciser que c'était de sa main.
« L'empereur Jagang ne compte plus. L'ordre impérial s'est relevé de ses cendres sous le règne d'un chef bien plus puissant que lui. Un homme devant lequel il se serait senti tout petit. »
Nietzsche ne voyait pas qui aurait jamais pu faire cet effet à Jagang, mais elle garda cette réflexion pour elle. Un idiot arrogant comme ce messager ne l'aurait pas cru. Elle jeta un coup d'œil à Nathan, pâle comme un mort.
« Un nouvel ordre impérial !»
souffla-t-il. Nietzsche se décida en une fraction de seconde.
« J'envisageais d'aller aider Richard, mais nous devons lui faire confiance, comme il s'est fié à nous. Sans nul doute, il se sortira de ses ennuis. Nathan, s'il existe un nouvel ordre impérial et un homme qui prétend occuper le trône de Jagang, nous devons aller à Alterrang et voir à quoi ressemble cet Argus. »
« Une bonne idée, oui, »
grogna Nathan, rouge de colère.
« Une très bonne idée. »«
Messager, »
lança Nietzsche,
« nous t'accompagnerons à Alterrang où nous entendons rencontrer l'empereur Argus. »
Le crétin arrogant étudia les deux importuns. Ce faisant, il prit note des formes de Nietzsche, de ses yeux bleus et de ses cheveux blonds. Avec un peu de chance, elle ne devrait pas le tuer avant d'atteindre la nouvelle capitale, mais ce n'était pas joué.
« Je ne peux pas garantir qu'il vous recevra. Argus est un homme très important. »«
Ça, je n'en doute pas. »
Le messager fit volter son cheval et partit répandre sa bonne parole ailleurs.
« Je m'en irai à l'aube, »
lança-t-il par-dessus son épaule.
« Je vous autorise à me suivre, mais ne comptez pas sur moi pour vous materner. »«
Jeune homme, nous n'en aurons pas besoin, »
marmonna Nathan. Nietzsche se rembrunit. Sa détermination intacte, elle devina qu'elle était loin d'en avoir fini avec l'ancien monde. En compagnie de Nathan, elle avait mission de porter une autre bonne parole. Celle de Richard de Rale, annonçant au monde que l'ère des tyrans, des despotes et de l'esclavage était révolue. Pour écraser les aspirants dictateurs, le sorcier comptait sur un sorcier et une magicienne, et il avait bien raison.
« Il nous reste du pain sur la planche, Nathan. Tu vas pouvoir remplir un nouveau livre de vie. »
Le vieux sorcier acquiesça.
« Tu parles d'or, magicienne. »
Les yeux rivés sur le messager, les deux amis préparaient déjà leur plan.
« Je crois qu'on va avoir droit à un nouveau voyage. »
« Et à une nouvelle guerre. »
Alors qu'ils scrutaient le port, où le chasseur levait déjà l'ancre, avide de se faire porter par la marée, Nathan sortit de sous sa veste une liasse de feuilles de parchemin soigneusement pliées.
« J'avais pris de l'avance, très cher. C'est une lettre adressée à Richard, et le général Zimmer m'a juré qu'il la lui ferait remettre en main propre. Ça raconte tout ce que ce garçon a besoin de savoir sur nos aventures.
Tu aimerais la lire ? » Nietzsche accepta la missive ainsi qu'un stylet magique qui lui permettrait d'ajouter des notes. En commençant sa lecture, la magicienne s'attendit à un récit épique où Nathan aurait le beau rôle tandis que Bannon et elle passeraient pour s'y faire valoir. Mais elle se trompait du tout au tout. Dans le texte, c'était elle qui occupait la position centrale et qui se distinguait en sauvant le monde. Un peu désorientée, elle rendit la lettre à Nathan.
« Ça apparaît très bien. N'oublie pas, sorcier. Je suis venu avec toi parce que Richard pensait qu'il faudrait quelqu'un pour te surveiller et veiller sur toi. »
Avant de sceller la missive, le vieux sorcier ajouta un post-scriptum.
« Que dis-tu de plus ?»
demanda Nietzsche.
« Quelques mots pour rassurer Richard. »
« À quel sujet ?»
Le vieil homme remit la lettre à sa place.
« Eh bien, je lui promets de faire attention à toi, parce que tu en as encore besoin, quoi que tu penses. Nouvel ordre impérial ou pas, tu ne peux pas sauver le monde seul. »
« Mais je ne le suis pas, » souffla Nietzsche.
Si surprenant que ce fût, c'était la stricte vérité. Une idée dérangeante pour quelqu'un qui avait vécu sous le joug d'une mère sans cœur, puis servit le gardien, avant de défendre la cause de Jagang. Mais tout ça était à jamais derrière Nietzsche. Plus forte, plus lucide et plus courageuse, elle ne laisserait pas l'ombre d'une chance à ceux qui entendaient nuire au monde. Après un coup d'œil à Nathan, elle balaya la ville du regard, puis sonda le lointain où s'étendait l'ancien monde, pas encore guéri de ses anciens démons. Quelle que soit la menace présentée par le nouvel ordre impérial et son empereur Argus, elle y mettrait un terme, à n'importe quel prix.
« Non, » fit-elle, « je ne suis pas seule. »
Vous venez d'écouter Les Chroniques de Nietzsche, tome 4, Cœur de glace noire, de Terry Goodkind, traduit de l'anglais par Jean-Claude Mallet, lu par Vincent Deboire, une production Audible Studio.